La ville de Montpellier peut s'aborder de multiples façons. Sur FM Plus 91 FM, nous recevons régulièrement Valdo Pellegrin qui nous fait traverser Montpellier en nous arrêtant au lieu empreint de science et de découverte. Nous avons aussi reçu Jean-Luc Fabre qui a imaginé Montpellier avec sa présence vénitienne au XVIIe siècle dans l'univers de la pharmacopée de la science. Mais aujourd'hui, c'est un tout autre parcours montpelliérain que je vous invite à faire. Un parcours destiné aux initiés ou peut-être à ceux qui veulent devenir ou l'être, nous allons le comprendre tout à l'heure, un parcours pour vous approcher des lieux secrets de Montpellier. Et j'ai le très grand plaisir de recevoir Monsieur Leleu Elias. Bonjour.
Oui, bonjour et merci de votre invitation.
Oui, c'est
vrai
que
c'est quelque chose qui est compréhensible aux initiés, mais pas seulement. Je pense que les gens qui s'intéressent au Montpellier de tous les jours, pas forcément secret. On verra par exemple qu'on peut parler de la coquille qui est juste à côté de la place de la Canourgue. On peut parler...
La coquille qui est un lieu architectural ?
Oui, c'est... j'ai
Une
du mal
place.
À dire que c'est un monument
un
parce
monument.
Que c'est comme un copeau qu'on aurait enlevé au coin de l'hôtel de Sarré qui jouxte la place de la Canourgue. Bon, pour moi, c'est un monument, mais... L'important, c'est de voir que des monuments comme ça, laissés par les moines ou par d'autres personnes, souvent effectivement initiées, ces monuments nous parlent. Ce sont des repères. Moi, dans le livre que j'ai écrit et qui commence par explorer la coquille, on voit que c'est un panneau indicateur.
Alors en effet, vous avez publié « Secrets d'initiés et lieux sacrés de Montpellier » en 3 volumes dans une petite maison d'édition qui s'appelle Clapa 5, votre maison d'édition. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, et vous utilisez pour définir votre travail dans ces livres « Secrets d'initiés et lieux sacrés de Montpellier », vous utilisez le terme de « géobiologie sacrée ». Qu'est-ce que ça représente, la géobiologie sacrée ?
J'ai un peu de mal à définir de quoi il s'agit, parce que les termes parfois manquent. Donc, j'ai pris un terme qui a une signification déjà pour les scientifiques. La géobiologie scientifique, c'est l'étude des êtres vivants et leurs relations, mais sur des temps longs, sur des temps géologiques et biologiques très longs. Donc ce qu'en général chacun appelle la géobiologie, c'est l'étude des influences du sol et électromagnétiques sur les êtres vivants, sur les plantes aussi notamment. Donc pour me démarquer de ces deux sortes de géobiologie, j'ai essayé de mettre ça dans quelque chose que j'appelais effectivement géobiologie sacrée.
Bon. C'est un terme que finalement vous avez inventé pour...
J'ai pas inventé, mais ce que je vois que font les géobiologues, qui font un travail intéressant, c'est qu'ils s'occupent de quelque chose qui tient aux influences négatives. Ils vont arriver dans une maison, ils vont dire, voilà, placez votre lit au bon endroit. Là, vous avez un transformateur qui peut, si vous êtes électrosensible, qui peut vous gêner. À 200 mètres de chez vous... Vous avez une ligne à haute tension, je vous conseille de déménager tout de suite. Donc ça, ce sont des points de vue essentiellement négatifs, on peut dire. Ce qui me plaît dans ce que j'ai appelé la géobiologie sacrée, c'est qu'on peut avoir aussi des influences positives. C'est-à-dire que pendant des centaines d'années, surtout à Montpellier, il y a des personnes qui se sont essayées à développer des lieux qui sont extrêmement positifs. Donc c'est pour ça que la collection s'appelle comme ça, donc fait référence aux lieux sacrés et aux initiés. Parce que, pour le dire vite, ce sont toujours des initiés, enfin des gens qui savaient comment faire, qui connaissaient l'ésotérisme, qui ont mis en place ces hauts lieux que j'ai appelés des lieux sacrés. Mais bon, voilà.
Alors en effet, vous nous dites que ces découvertes que vous décrivez sont décrites selon un point de vue possible des bâtisseurs, c'est-à-dire selon l'angle initiatique, vous nous dites, et celui qui est à même de tout expliquer.
Oui, c'est très intéressant ce que vous dites parce que...
C'est vous qui le dites dans
à l'instant.
Votre propos, je reprends vos propos.
À l'instant. Comme quoi. À l'instant, on parlait de la coquille. Quand on aborde la coquille avec, j'allais dire, cet œil de bâtisseur, un bâtisseur, c'est sous-entendu quelqu'un comme un compagnon, comme un bâtisseur de cathédrale, c'est pas juste un architecte qui fait du béton. Et quand on aborde la coquille avec cet œil-là, que voit-on ? On voit un socle qui est ce que les bâtisseurs appellent un carré long. C'est-à-dire, c'est un rectangle qui est deux fois plus long que large, deux carrés à coller, peut-on dire. Ça, ça avait une signification pour les bâtisseurs. Ça leur permettait de retrouver le nombre d'or, enfin bon, bref. Mais quand on prend un double décimètre, voilà, on peut chercher à aller plus loin, toujours en regardant la coquille. Si on mesure la longueur de la base, on va trouver 3,14 m, c'est-à-dire pi mètre. Bon, je sais bien que ça peut paraître un peu bizarre, mais donc la largeur, 1,67 m. On s'aperçoit que c'est pas la valeur, c'est pas l'unité du mètre qui était importante, puisque la coquille a été construite en 1630 et le mètre a été établi après la Révolution, donc je ne sais pas à quelle époque. C'était compliqué à découvrir, puisque c'était lié à la circonférence de la Terre. Donc on s'aperçoit que la proportion est celle des bâtisseurs, mais la longueur, et donc la largeur, font référence à pi et au mètre. Mais le mètre est lié à la coudée égyptienne. Donc on a une proportion sacrée, peut-on dire, et on a une mesure, la coudée égyptienne plutôt que le mètre, et une autre proportion pi. Voilà, on se retrouve avec trois choses qui sont étonnantes. Donc, regarder les monuments de Montpellier avec cet œil-là, c'est essayer de les décoder déjà de manière, je ne vais pas dire scientifique, mais vous voyez ce qu'on vient de faire,
oui,
c'est des considérations.
Voilà. Avec un regard.
Il y a une autre manière un peu plus subtile de les appréhender, mais là, c'est déjà quelque chose que tout le monde peut vérifier, que personne n'a jamais fait avant moi, apparemment.
Alors du coup, vous, quand vous vous promenez dans Montpellier, vous avez toujours ce regard-là ?
J'essaye d'avoir un... Comment dire ? C'est difficile d'aborder le sujet. Un regard intérieur. Parce que je pense que... je suis sûr et je pense que ça peut se démontrer que tout ce que les initiés ont fait à Montpellier... Ils l'ont fait dans un espace que je peux appeler subtil. Subtil, c'est-à-dire une dimension qui est celle dans laquelle l'homéopathie est efficace, par exemple. Voilà. Pour dire vite, parce qu'on peut le dire différemment. Donc, quand je me promène à Montpellier avec le temps d'ouvrir les yeux et d'avoir ce regard intérieur, j'essaye de capter ce que les initiés ont fait. Et souvent, c'est très étonnant, effectivement, puisqu'on parlait de la coquille. On voit que la coquille, qui est en forme de... Bon, comme une coquille ouverte, avec un centre, comme une fleur, on voit qu'elle rayonne. Il y a des rayons qui sortent. Voilà, donc, ça, c'est la deuxième chose. Après les constatations géométriques, pourrait-on dire, il y a le regard intérieur, le ressenti, le percept, j'emploierai souvent ces mots-là, désolé, qui vous disent que quelque chose d'autre existe. Et donc que ceux que j'appelle les initiés ou les bâtisseurs ont réalisé quelque chose dans cette dimension subtile.
Est-ce que ce regard intérieur dont vous parlez, vous le portez sur des monuments qui se sont construits à une certaine époque et au-delà de laquelle ces monuments-là n'ont plus été construits, ou est-ce que vous pouvez le porter sur tout type de bâtiment ?
Ça, c'est quelque chose de très important. Effectivement, quand on parle de bâtiments reliés, je dis souvent reliés, je crois que jusqu'à l'époque médiévale, on peut dire que tous les bâtiments étaient reliés. Les chrétiens faisaient systématiquement, protestants, catholiques, faisaient systématiquement des bâtiments reliés, tous. Les lieux hébraïques étaient aussi reliés. Donc, à partir de quand ? On ne peut pas dire, mais disons la création de Montpellier un peu avant l'an 1985 peut-être. Les bâtiments étaient déjà à cette époque-là reliés. Saint-Firmin, l'église Saint-Firmin, qui n'existe plus. Notre-Dame-des-Tapes, qui était sur la place Jean Jaurès, qui n'existe plus non plus, étaient clairement des bâtiments reliés. Ce qui est intéressant, c'est que ces bâtiments continuent à émettre. Donc on peut trouver ce que les initiés y ont mis. Donc pour répondre à votre question, effectivement, on peut dire que jusqu'au XVIe, peut-être XVIIe siècle, tous les bâtiments, ou presque, étaient reliés. Ou presque. Mais, et Montpellier a cette chance, il y a eu au XIXe siècle, il y a eu un maire qui s'appelait Jules Pagési, donc qui a été un grand démolisseur avant d'être un grand bâtisseur, il a détruit tout ce qui était à l'emplacement actuel de la rue Foch. Il a retracé donc la perspective jusqu'à la place des Martyrs de la Résistance. Il n'a pas continué après, peut-être que les gens ont trouvé que c'était beaucoup, je ne sais pas exactement, ça serait intéressant de savoir. Il a refait tout un quartier, peut-être qu'on en parlera, à côté de la gare et à côté du cours Gambetta. Et là, il y a des choses très intéressantes. Donc, au-delà de cette période médiévale, il y a eu ce 19e siècle. Et au début du 20e siècle, il y a eu un architecte, je dis protestant parce que je crois qu'il y avait deux architectes. Il y avait cet architecte protestant qui s'appelait Edmond Linhart, donc d'une grande famille montpelliéraine. Et il y avait un autre architecte qui travaillait, lui, pour les catholiques, et qui s'appelait Carrier, j'ai oublié son prénom, et qui, lui, a fait tous les bâtiments qui sont autour de la place de la Comédie, par exemple. Voilà, donc, eux aussi étaient alchimistes, initiés, et ils ont construit, donc, dans le domaine du subtil, des bâtiments très intéressants.
Je vous propose de faire une pause musicale avec Scotch et Sofa, la visite des recoins.
Je sais que j'ai tout dit et que d'autres avant moi ont dit ce que j'ai dit, mais ils ne sont pas moi. Leur œil est différent et les mots dans leur bouche se déroulent autrement à chaque. Je sais ce que je fais quand je parle de moi. Je cherche à me trouver, mais je ne m'égare pas. Je visite mes recoins, l'infiniment petit, l'infiniment lointain. Pour le reste, tant pis, je sais que j'ai tout dit et que d'autres avant moi ont dit. Ce que j'ai dit, mais ils ne sont pas moi. Leur œil est différent et les mots dans leur bouche se déroulent autrement à chacun ses cartouches. Les lumières du dehors, la vie à l'extérieur sont de pauvres trésors. Quand on est voyageur, l'aventure du dedans, si l'on s'y laisse aller, est le plus beau présent que l'on puisse déballer. Je sais que j'ai tout dit et que d'autres avant moi ont dit ce que j'ai.
Notre Marc Leleu-Elias, nous étions en train d'évoquer la façon que des bâtisseurs du Moyen-Âge, et même, vous nous le disiez, jusqu'au début du XXe siècle, ont construit cette ville. Et vous nous disiez qu'ils s'étaient reliés, catholiques, protestants, juifs, qu'ils reliaient leur construction. Qu'est-ce que vous entendez par ce terme « relié » ?
On est dans un domaine où le vocabulaire, des fois, nous trahit un petit peu, et des fois, il faut un petit peu des mots qui sont, qui sont peut-être approximatifs, mais je pense que relier, c'est un bon terme, parce que quand on parle de religion, on dit toujours que ça vient du latin, religare, relier. Là, on n'est pas dans le religieux, je dirais qu'on est dans le pluriculturel, ou je ne sais pas.
Le spirituel, mais, ça vous conviendrait mieux ?
Sacré me convient. Oui. Et je crois que la plupart des bâtisseurs étaient des gens reliés eux-mêmes. Ça, c'est la première chose. Ceux qui n'étaient pas des religieux étaient, par exemple, des initiés. Je pense aux francs-maçons, parce que Jules Pagési était franc-maçon. Le maire dont nous parlions, Edmond Linhart, à l'évidence, était aussi franc-maçon, et je pense même que c'était la même obédience que Jules Pagési, une obédience égyptienne. Donc tous ces gens-là se voulaient reliés. Pour les religieux et les moines, c'est évident. Pour les francs-maçons et assimilés, il y a quelque chose qui les relie à ce qu'ils appellent le grand architecte. Des fois, dans certaines obédiences, il y a encore la Bible sur l'autel. Là, pour les deux personnes dont je parlais, trois personnes, puisqu'il y a aussi l'architecte Carrier, sont des gens qui étaient reliés à la maçonnerie égyptienne. Donc, il y avait des croyances de l'Égypte ancienne. Donc, tout ce qui est... tout ce qui a trait aux prêtres égyptiens, à la pyramide, etc., ce sont des connaissances reliées, c'est-à-dire obtenues par voie d'initiés, que ce soit des grands prêtres, et mises en action par des initiés. Et donc, ce qu'il en reste, c'est difficile de dire que c'est pas relié. C'est relié. Et c'est justement parce que c'est relié, c'est-à-dire parce que dans le domaine subtil, il y a encore des traces, c'est justement pour ça qu'on peut encore les détecter. Parce que sinon, moi je peux me promener à Montpellier en disant « Là je veux qu'il y ait ci, et là je veux qu'il y ait ça, et là je veux qu'il y ait des lignes », ça ne marchera pas, parce que moi je ne suis pas relié. Voilà.
En effet, vous évoquez dans vos ouvrages la question des vestiges enterrés que l'on parvient à repérer. C'est de ça dont vous parlez ?
Oui, je pense que c'est quelque chose d'important parce que tout ce que je dis dans ces livres peut être remis en question très facilement. Il suffit de dire que j'ai inventé, que j'ai pris mon double décimètre et que j'ai créé des triangles ou des pentagones ou une croix occitane, on en parlera peut-être, qui n'existe pas.
Oui, en effet, dans vos livres, il y a beaucoup de schémas, de traits qui réunissent différents lieux.
Oui. Et j'essayais même de donner des mesures. Moi, j'ai vu que dans des bouquins de médiévistes, des fois, j'aime bien dire médiévalistes, parce que ça fait... Il y a un site qui s'appelle Médiévaliste, c'est très amusant. Dans les ouvrages de médiévistes, souvent, il y a des mesures qu'ils ne peuvent pas expliquer. Moi, j'ai donné un tableau, dans le tome 3, où ces mesures sont parfaitement reliées, et même souvent reliées à des mesures égyptiennes, et pas seulement la coudée, mais des mesures, une mesure par exemple qui, je crois, fait 63 mètres, et qui est reliée à une mesure sacrée de Montpellier, qui fait 192 ou 13 mètres, mais qu'on trouve des dizaines de fois, véritablement. Donc, on a quelque chose sur lequel on peut s'appuyer de manière effective. Le point important est que, pour mettre ça en évidence, il faut aller le chercher, et il faut que tout le monde soit convaincu que j'ai été le chercher, effectivement. Donc, que ces forces subtiles dont je parle, ces forces sacrées, existent. Donc pour ça, j'ai proposé plusieurs fois de retrouver des édifices sacrés médiévaux qui avaient été perdus. Donc il y en a qui sont perdus parce que ils ont été détruits, par exemple, pendant les guerres de religion. D'autres ont été véritablement perdus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun vestige. Tant que ce sont des édifices médiévaux, je peux les retrouver sans problème, même s'ils sont à plusieurs mètres sous terre, même s'il n'y a plus aucune trace.
Et là, on peut vous qualifier de magicien.
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Surtout que tout à l'heure, j'ai parlé de regard intérieur, en fait. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est un ressenti, comme le ferait un radiesthésiste, un géobiologue. C'est pas... Je suis dans un état normal. Si je dois chercher, je pense que quelqu'un va me suggérer de relever ce défi. Si je dois chercher une église perdue, médiévale, je répète, je peux avoir quelqu'un à côté de moi qui me parle, je vais comprendre parfaitement, je vais avoir l'air normal et la personne ne me verra pas tétanisé dans un état second.
Au début de notre émission, nous avons évoqué la coquille. La coquille à Montpellier, c'est le troisième volume. Et le premier est relatif aux pontets. Que sont les pontets pour Montpellier?
Les pontets, au plan architectural, ce sont les arches qui surplombent certaines rues. La plus petite est Place Saint-Ravi. Elle est vraiment très amusante parce que on voit bien qu'elle n'a pas le rôle de soutenir quelque chose. Elle n'est pas très épaisse. Elle n'est pas suffisamment épaisse pour soutenir un bâtiment. Les bâtiments eux-mêmes se tiennent parfaitement. Donc on peut se demander pourquoi ce pontet. Le pontet le plus important, et il peut même être habité, c'est celui de la rue Jacques-Cœur. Donc il est monumental. Et je pense que c'est ce qui lui a évité d'être détruit, parce que c'est ce qui a évité surtout à la chapelle des pénitents blancs d'être détruite. Parce qu'à l'époque où toutes les églises catholiques étaient rasées, ils n'ont pas rasé celle-ci parce que le pontet y était accroché. Enfin, j'imagine, c'est l'explication que tout le monde donne. Donc tout le monde est un peu étonné devant l'existence de ces pontets, par exemple, pour celui de la rue Jacques-Cœur, le plus important, donc. Plusieurs hypothèses ont été données. Donc, c'était pour qu'un religieux puisse officier en passant de son logis à la chapelle. Enfin, en fait, il n'y a aucune explication simple et rationnelle. Je pense qu'on peut en apporter une, en constatant que sous tous les pontets, il y a un lieu de rassemblement, de concentration de force, qui ressemble à ce que peut être un hôtel d'église ou de chapelle. Donc, sur toute la ville, les initiés ont construit une géométrie complexe. Complexe parce que certaines églises devaient être construites, certaines chapelles devaient être supprimées, et on voit que c'est complexe parce que dans le cas de l'église Saint-Mathieu, par exemple, l'autel a été inversé. Avant, l'autel était à l'entrée, à gauche, quand on rentre dans l'église Saint-Mathieu actuelle. Maintenant, elle est à l'opposé. Donc, il y a même d'autres églises à côté de la chapelle des Dominicains. Oui, c'est ça, Dominicains. Occupées par les Dominicains, en tout cas. Il y a plusieurs chapelles qui ont existé à cet emplacement. Une qui était perpendiculaire à la nef actuelle, une autre qui était un petit peu de travers, enfin, bref, on voit que c'était compliqué. Et dans cette géométrie, les pontets ont un rôle important, puisqu'il fallait toujours que les forces sacrées dont on parle, qui sont réunies à un autel, il fallait que ces forces soient protégées par une arche. Et quand vous regardez les églises romanes, vous voyez toujours que l'autel est sous une arche, toujours.
D'où l'importance de ces lieux et la nécessité d'en parler dans un premier volume.
Oui, donc on y parle des pontées, de ceux qui existent et de ceux qui ont existé. Et voilà, donc j'essaye de faire le tour de ce qui est pontée, arche, actuelle, perdue. Et aussi, c'est important, des portes d'entrée de la ville. On s'aperçoit que pour les gens du Moyen-Âge, la porte d'entrée de la ville, c'était quelque chose de très important. Ils concentraient des forces spirituelles très puissantes, de manière à ce que les gens qui rentrent, d'ailleurs le circuit était généralement assez complexe, soient influencés par, pas par ces bonnes énergies, ça fait très New Age, mais par ces forces spirituelles puissantes.
Vous avez publié 3 volumes. Est-ce que vous considérez que vous avez fait le tour de votre sujet sur Montpellier et dans ses secrets architecturaux, de construction? Ou est-ce que vous êtes toujours ouvert à des surprises?
J'ai essayé de... Donc, commencer par les pontées, c'est essayer d'expliquer comment la géométrie sacrée fonctionne. Les autels, les pontées, les... J'ai essayé de donner une démonstration... Elle vaut ce qu'elle vaut, pour expliquer comment on pouvait prouver, entre guillemets, hein, que ces forces sacrées étaient reliées. Donc ça, c'est le premier tome. Le deuxième, je comptais expliquer le pourquoi du boulet de canon de la rue des Étuves, pourquoi Saint-Firmin, d'un seul coup, est devenu quelqu'un d'important à Montpellier, au point que une des premières églises lui soit consacrée. Après réflexion, j'ai décidé de directement écrire le tome 3. Le tome 2 existe, mais je ne l'ai pas publié. Pourquoi le tome 3? Parce que je ne dis pas que c'est un livre à la Dan Brown, vous savez, Da Vinci Code, mais on commence par quelque chose qui est l'examen de la coquille, comme on l'a fait tout à l'heure. Et à partir de là, on essaye d'en déduire d'autres énigmes que l'on résout au fur et à mesure, bien sûr. La troisième, puisqu'il y en a 5, la troisième, c'est l'existence d'une croix occitane géante sur l'écusson. Donc elle n'est pas simple quand même, hein. Elle est un peu asymétrique, elle fait intervenir des hauts lieux, elle fait intervenir des pratiques, c'est quelque chose d'assez complexe. La dernière énigme, c'est quelque chose qu'on peut vérifier très simplement en regardant Montpellier vue d'avion, avec par exemple sur ordinateur, avec une application qui s'appelle Google Earth. Et on voit que effectivement il y a une, j'allais dire une ville égyptienne, il y a un panthéon égyptien qui est disposé autour de la place Carnot, dont les rues sont disposés comme les rayons d'un soleil. Donc peut-être qu'on en parlera, mais déjà on peut dire que ce quartier fait par Jules Pagési, donc essaye de refléter ses croyances, et c'est quelque chose quand même qui est vraiment constatable. Voilà, donc ça c'est le tome 3. Le tome 4, j'ai aussi pensé que ça pouvait être publié plus tard, ou pas publié d'ailleurs. Et le tome 5, j'ai essayé de montrer en quoi Montpellier était une ville alchimique. Et on s'aperçoit que tous les initiés dont nous parlons, et même Jacques Coeur, je suis désolé, étaient alchimistes. Donc ça vaut aussi pour Jules Pagési et ça vaut aussi pour Edmond Lienhardt.
Marc Leleu Elias, cette émission est bien trop courte pour contenir tout ce que vous auriez à nous dire. Je sais d'ores et déjà que vous reviendrez sur FM+.
Volontiers.
Vous parlez, pourquoi pas, peut-être, de ces deux autres volumes que nous avons peu exposés et pour un autre sujet.
Oui, vous me demandiez si c'était terminé.
Oui, en effet.
Je peux vous dire que c'est vraiment loin d'être terminé. Moi, je suis au regret que ce que j'ai écrit ne vienne pas à l'oreille de l'Office du tourisme, par exemple. Enfin, disons, peut-être ils ne le prennent pas au sérieux. Parce qu'il y a matière à mettre sur pied des visites de Montpellier qui attireraient, je pense, des gens de la France entière. La ville natale de Jacques Coeur, Bourges, par exemple, est réputée pour être une ville alchimique et la ville organise des visites. Ça pourrait être la même chose à Montpellier.
L'appel est lancé, Marc Leleu-Elias. Merci à vous.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.